8h31, c'est l'heure de la revue de presse sur Radio Classique. Bonjour Marc.
Bonjour David, bonjour à tous.
La revue de presse avec vous, à la une, un marteau d'un kilo.
Ah oui, celui de Colette Cataldo, David. Colette Cataldo, 83 ans, ce marteau, elle le porte presque tous les jours en marchant sur un petit chemin derrière chez elle. Colette, elle s'entraîne parce que dans quelques heures, elle sera la deuxième porteuse de la flamme olympique qui arrive aujourd'hui à Marseille. Aujourd'hui, il y aura donc Jean-Pierre Papin, Basile Boli et Colette, qui est loin d'être une anonyme, une figure des supporters de l'Olympique de Marseille. Mais Colette, elle, préfère se définir comme une femme, une grand-mère et la représentante d'une identité. Oui, Marseille, c'est une grande ville, mais on sait qu'en France, on ne nous aime pas beaucoup, mais on s'en moque. Colette casse d'ailleurs un peu le mythe. Vous savez, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est pas la flamme, c'est le match de l'OM. Demi-finale de Ligue Europa ce soir en Italie contre Atalante. Un passant ne dit pas mieux dans Libération. Si on gagne, la flamme, ce sera rien à côté. Un autre ajoute, de toute façon, à Marseille, il faut se contenter de ce que l'on a, c'est-à-dire tout. En tout cas, vos journaux s'enthousiasment pour
l'arrivée. C'est joliment dit.
C'est joliment dit, oui. C'est vos journaux, en tout cas, eux, s'enthousiasment pour l'arrivée de cette flamme olympique. À bon port, titre la Marseillaise. La flamme arrive, reprend la Provence quand l'Est républicain tente la journée de la flamme. Cessons d'être grincheux, écrit pour sa part Olivier Auguste dans Le Parisien. On va enfin passer de la phase ronchonnerie à la phase enthousiaste. Enthousiaste comme Hugo, l'un des 16 éclaireurs qui ont escorté la flamme à bord du Belém en Méditerranée, ce fameux trois-mâts. Le ménage, la vaisselle et les manœuvres en mer, c'était une récompense pour ce lycéen qui revient de loin, écrit Ouest France. Sa phobie scolaire en cinquième, ses troubles dysorthographiques, le dispositif Ulysse au collège. Hugo a vécu la catégorisation, les moqueries. Retour au tumulte donc aujourd'hui pour Hugo qui retient une chose, confie-t-il au journal L'Équipe. 360 degrés de bleu, sans rien, au milieu de la Méditerranée. Jamais mon regard a porté aussi loin.
Du feu également ce matin dans la presse.
Oui, celui des frappes israéliennes qui ont éclairé le ciel obscur de Rafah, dont vous parle Libération. Lundi dernier, raconte Le Quotidien, il y a d'abord eu la joie, la liesse, chez les familles israéliennes d'abord, place des otages à Tel Aviv, une lueur d'espoir lorsque le Hamas a annoncé qu'il acceptait l'accord de paix. L'espoir d'une potentielle libération aussi de leurs proches, puis vient l'effroi quand ils ont vu les images des tanks dans Gaza. Un Israélien témoigne dans Libération, on vit dans des montagnes russes de l'horreur. Même sentiment, même récit quasiment à Rafah. Après les concerts de klaxons, la douleur, la résignation, écrit le journal Le Monde. Pour fuir, détaille Le Quotidien, il faut désormais un permis de passage délivré par des hommes d'affaires et les services de sécurité égyptiens. Les prix s'envolent en ce moment. Ce permis coûte désormais 10 000 dollars par personne.
Le journal Le Monde revient quelques pages plus loin sur un conflit qui secoue Sciences Po Paris.
Oui, il y a deux mois que la prestigieuse école se déchire à propos du soutien d'étudiants à la cause palestinienne entre incidents en Assemblée Générale, intervention des forces de l'ordre et une certaine récupération politique. Oui, Sciences Po a toujours été un terrain de contestation. D'anciens étudiants se souviennent. François Hollande avait bien envahi le bureau du directeur pour s'opposer à la venue du fasciste Maurice Bardèche, beau-frère de Brasillac. Qui se souvient de l'amphi rebaptisé Che Guevara en mai 68, puis Farinelli en 95 pour protester contre la réforme des bourses d'études. Cette fois-ci, Sciences Po traverse deux mois de dialogue impossible, d'embrasement à la moindre étincelle. Et au milieu de tout cela, Jean Basser, le directeur provisoire, qui n'avait pas imaginer devoir gérer un tel débordement. D'ailleurs, à Sciences Po, le bal des prétendants au poste est ouvert. Le magazine Challenge évoque les noms de Najat Vallaud-Belkacem, de l'ex-premier ministre italien Enrico Letta, Clément Beaune ou encore Aurélien Rousseau, l'ancien ministre de la Santé, pas si tenté que ça si vous revenez dans le journal Le Monde, ouvrez les guillemets. Comment diriger une telle boutique quand le sol, le plafond et les murs sont simultanément instables?
Détente, un réchaud et une guitare devant la Défense Arena de Nanterre.
Ouais, voilà l'attirail, David, des fans de Taylor Swift. L'artiste américaine entame demain une série de 4 concerts en France. Et ces Swifties, comme on les appelle, sont sur le pied de guerre depuis déjà 48 heures, vous raconte Le Parisien. On vient pour avoir les meilleures places, on ne vient pas pour faire du tourisme, prévient Guillermo, alors qu'un passant vient de lui offrir de quoi manger pour tenir le coup. Préparez-vous à la tornade, prévient le Figaro Économie. Vous savez, ces ados, ces familles tout en paillettes, chapeau de cow-boy et veste à franges, ces fans qui dépensent en moyenne 1200 euros par concert, entre les billets, les casquettes, les suites et le réchaud. Donc, amateur s'abstenir, Taylor Swift, c'est le feu sacré, c'est une machine à cash, vous raconte le Figaro Écho toujours. Sa tournée dans 20 pays avec son millier d'employés, ses 90 semi-remorques rapporteraient 2 milliards d'euros. Si bien que les spécialistes parlent de Taylornomics. L'impact économique de Taylor Swift rapporterait 4 à 5 milliards d'euros à l'économie américaine et ses concerts à l'étranger des centaines de millions d'euros pour le pays hôte. À Paris, le secteur du tourisme se frotte déjà les mains, raconte le Figaro. Certains hôtels affichent complet. Un professionnel témoigne, c'est presque surréaliste en plein pont de l'Ascension.
Enfin, une flamme qui continue de briller.
Et 2 ans après l'attentat qui a failli lui coûter la vie, l'écrivain Salman Rushdie s'exprime ce matin dans le Figaro. Salman Rushdie, serein, apaisé, assagi dans ce théâtre de l'absurde. C'est d'ailleurs Beckett qui l'a accompagné pendant sa convalescence. Il faut continuer, je vais donc continuer. Il faut dire des mots, tant qu'il y en a, il faut les dire. De l'absurde et de l'ironie lorsqu'il est questionné sur les manifestations pro-palestiniennes sur les campus. Certains sont davantage intéressés par un soutien aux terroristes qu'au sort de la population de Gaza, mais peut-être pas au point de vivre eux-mêmes sous le régime de la charia. Il voyage, il prend la parole, il ne mâche pas ses mots, il dénonce sans trembler et sans renoncer, écrit dans son édito Étienne de Montetti. Cet enfant de Beaumarchais se presse de rire de tout, de peur d'être obligé de pleurer.
Marc Bourreau, la revue de presse. Je vous dis à demain, Marc, pour le journal Imprévisible. Merci à vous. Dans un instant, Esprit Libre, avec Maître Sophie Obadia et Monsieur Marc Lambron de l'Académie française Radio Classique. Il est 8h37.